Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC BFM TV. Bonjour Olivier Véran.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Beaucoup de questions à voir avec vous, très concrètes, parce qu'on apprend qu'en cas de tension sur l'énergie, il pourrait y avoir un risque élevé de délestage. Ce qu'on appelle les délestages, ce seraient ces éventuelles coupures de courant. Quel scénario très précis. Coupure d'électricité ciblée, dit le gouvernement. Ciblée sur qui, comment, quand?
D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures. On a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on aurait un hiver particulièrement froid, donc particulièrement coûteux en énergie, compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique, et que comme il est exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations.
Blackout, donc soyons déjà précis sur les termes. Blackout, c'est carrément si le système
explose.
C'est-à-dire, c'est si tout d'un coup, on se retrouve sans électricité et la France dans le noir.
Et ça n'arrivera pas.
Et pour pas arriver à ça, il faut cibler et éventuellement faire des coupures à certains endroits, à certains moments. C'est ça?
Je repose vraiment les termes du débat. On n'est pas en train de dire aux Français qu'on aura des coupures cet hiver. On est en train de dire aux Français que s'il fait, je sais pas, 5, 6, 7 degrés de moins au mois de janvier que les mois de janvier habituels, et que donc on est obligé de puiser beaucoup dans les réserves d'électricité pour se chauffer, s'il y avait des tensions sur la ligne, on ne laissera pas des situations critiques arriver, et donc on est dans l'anticipation. Et ce qu'on dit aussi aux Français, c'est qu'à tout moment, de toute façon, et ils le sauront au bon moment, à tout moment, ils gardent le contrôle sur les choses, c'est-à-dire que par une adaptation certaines heures, certains jours, de la façon de consommer de l'énergie, ils évitent tout risque de coupure.
Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que si on dit aux Français, ce sera le terme éco-watt, vous savez, ce sera éco-watt, c'est la météo de l'électricité. Quand c'est vert, tout va bien. En ce moment, on est vert. Quand c'est orange, c'est un peu tendu. On fait un peu attention. Et quand c'est rouge, là, ça veut dire que on n'exclut pas que le lendemain, il puisse y avoir des difficultés sur certaines lignes. Dans ce cas-là, les Français seront invités.
Ça veut dire que c'est du jour au lendemain?
Adapter.
Ça veut dire que si on passe, par exemple, l'hiver, je vais essayer de me projeter. On est dans le vert, on passe dans le orange. Donc là, on se dit, oui, aïe, ça veut dire que ça tangue. Dans l'orange, vous allez nous dire, bon, pendant quelques jours, vous ne faites pas de lessive, vous baissez
un peu
de chauffage.
Non, on ne dira pas de lessive. On dit aux gens, orange, ça passe, mais ça montre qu'il y a des situations de tension. Et de toute façon, on invite à la sobriété énergétique. Le président de la République l'avait demandé, la première ministre aussi. Un certain nombre de Français le fait d'ailleurs, puisqu'on a une baisse de la consommation d'énergie en
ce moment. Et si on passe au rouge, vous dites, on sera prévenu. On sera prévenu comment? Sous quelle forme? Qui?
La veille à 15h d'abord, puis à 17h de manière affinée. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures. Ça veut dire, attention, demain ça va être tendu. Et donc on pourrait être amené à rencontrer des situations obligeant à couper pendant une heure ou deux heures l'électricité dans certains endroits.
Les Français seraient... À 15h et 17h, on reçoit quoi? On reçoit un coup de fil, un SMS? C'est les radios, c'est les télés?
Les Français seraient évidemment informés. Ils auraient même la possibilité de vérifier s'ils sont concernés par la zone en question. Mais le message qu'il faut entendre, c'est pas « il n'y aura plus de jus ». Le message qu'il faut entendre, c'est là, on a besoin que vous fassiez un petit effort. Ces petits efforts, c'est pas ne faites pas de lessive pendant plusieurs jours. Le petit effort, c'est de dire, si à 19h, tout le monde n'allume pas sa plaque de cuisson en même temps, ou tout le monde ne se sèche pas les cheveux en même temps, enfin, les appareils qui consomment beaucoup d'électricité, si on décale un peu à 19h45 ou à 20h, ça passe. Il n'y a pas de sujet. Par contre, s'il n'y a pas de changement et d'adaptation des comportements, alors on n'exclut pas de rencontrer des tensions sur la ligne qui pourraient justifier de couper le courant pendant un temps donné, encore une fois, en prévenant, et c'est pas tout le monde. Donc, je le redis parce que je sais que ce sujet-là, il va soulever beaucoup d'inquiétudes, les gens vont dire, mais comment ça se fait, etc., etc. Les causes, on les connaît. Bon, ensuite, c'est, est-ce qu'on a les capacités ensemble d'éviter que ça arrive? Oui. On est un pays hyper solidaire. On l'a montré, pardon pour le parallèle avec la période Covid. où à chaque fois qu'il y avait des mesures qui étaient difficiles, oui, en fait, les Français ont été solidaires.
Olivier Véran, on a l'impression tout d'un coup qu'on retrouve cette même inquiétude où on avait des horaires, où on avait des obligations, des interdictions. Et là, depuis ce matin, on a eu notamment des appels, un appel de Christine qui habite dans le parc Calais qui disait « Mon mari est sous appareil respiratoire. Est-ce qu'on peut me garantir que cet appareil ne va pas être coupé ?»
Oui.
Oui, comment vous saurez l'habitation, en fait, la rue, l'adresse de Christine ?
Toutes les zones qui comportent un hôpital, un EHPAD, une gendarmerie, un hôtel de police, une infrastructure stratégique de défense, est une zone qui ne sera jamais soumise à des coupures de courant. D'accord ? Ça, c'est le point essentiel. Ensuite, les préfets disposent des listes de toutes les personnes potentiellement fragiles ou équipées à leur domicile d'appareils sensibles, par exemple. Et donc, ces personnes-là sont gérées individuellement pour éviter toute situation compliquée. De la même manière, j'entendais hier des gens qui disaient « mais il n'y aura plus les numéros d'appel d'urgence, comment on va faire, etc. » Le 112, il sera fonctionnel. Le 112, il ne dépend pas des opérateurs, c'est un numéro européen qui peut ensuite basculer.
Alors, il y a beaucoup de choses que vous dites là-dedans. Il y a la question de comment est-ce qu'on sera prévenu, on va y revenir, mais il y a la question de ces appels d'urgence. Vous dites depuis hier, pas de problème, faudra appeler le 112, et le 112, il borne absolument à n'importe quel endroit. Sauf que ce que dit notamment la directrice générale d'Orange, Christelle Edelman, elle était devant les sénateurs hier, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Si les délestages se multiplient, on ne sait pas, en fait, comment comportera le réseau, et c'est un sujet sur lequel on continue de travailler, mais je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité. Donc c'est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français, puisque les services mobiles, si dans une zone géographique ils sont éteints pendant 2 heures, il n'y aura pas d'accès au service des numéros d'urgence pendant un temps.
Et c'est ce que confirmait sur RMC ce matin à 8h10, je recevais le président de la Fédération des Télécoms qui alertait, qui disait non, on ne sait pas comment ça marche parce que si les antennes relais sont éteintes et elles fonctionnent à l'électricité, il n'y aura pas, y compris le 112.
Vous avez ce qu'on appelle des systèmes d'antennes ressources, qui sont des antennes particulières, qui sont hors... En fait, pour faire un numéro d'urgence, quel que soit votre opérateur, ça ne compte pas. D'accord, que vous soyez chez Orange, chez Bouygues ou chez un autre, eh bien, c'est pas le problème. Dès lors qu'il y a une antenne qui, dans un territoire, dans un périmètre donné, peut émettre, alors vous pouvez transmettre les appels. Et s'il y avait des difficultés, les préfets sont alertés. Encore une fois, je vous dis les choses parce que j'entendais la directrice Orange qui dit si les délestages devaient se multiplier. On n'est pas dans ce scénario-là. On n'est pas en train de dire aux gens, ni de masquer, ni de dire aux gens, attention, c'est ce qu'on va... Je redis les choses. Si nous devions connaître un mois de janvier particulièrement froid, et s'il n'y avait pas d'adaptation de certains comportements, honnêtement, qui ne changent pas, qui ne bouleversent pas le mode de vie ou le cadre de vie des Français, alors on n'exclut pas de devoir recourir à des solutions, parmi lesquelles des coupures temporaires dans certains endroits. Je dis les choses parce que je sais très bien, après l'effet de stress général que ça peut provoquer, etc. On n'en est pas là. Ce que je dis, c'est que ce que nous disons, c'est que le gouvernement anticipe tous les cas de figure potentiels, quitte à ce que ces cas de figure ne se présentent pas, et donc on aura discuté de cela, on aura été en situation de se préparer à toutes
les éventualités. Et vous aurez préparé le scénario, je vous repose la question, vous dites nous serons prévenus à 15h, puis à 17h, pour le lendemain, on sera prévenus comment ?
Vous serez prévenu par des signes, alors c'est ce qu'on appelle le signal EcoWatt. Vous pouvez déjà vous équiper
avec...
C'est-à-dire
quoi, ça va être comme vous avez pour tous anti-Covid, bah, on vous va, avez, on vous va avez télécharger
l'appli. Moi, je l'ai téléchargée, elle est gratuite, elle vous donne la météo électrique pour les jours à venir, etc. Vous aurez aussi des campagnes nationales, télévisées, radio,
internet... Si on n'a plus la télé,
le principe que je suis en train de vous expliquer, c'est que personne ne va se retrouver sans courant, à un moment donné, sans avoir été averti que ça risquait d'arriver. Donc il va pas y avoir des coupures inopinées comme ça. La France est un pays qui fonctionne bien, qui a un bon système électrique et qui est en capacité d'anticiper. C'est exactement l'inverse que je vous dis. C'est que s'il y avait des situations à risque, non pas des situations qui seraient forcément suivies d'une coupure, mais le simple fait qu'on puisse évoquer le risque d'une coupure, chaque Français dans son périmètre aura les moyens de le savoir déjà la veille et de l'éviter en adaptant un peu son comportement de consommation, c'est-à-dire en repoussant un peu l'heure d'allumage de sa plaque de cuisson, par exemple.
Et en effet, les médias sont partenaires de ça. Je sais que, par exemple, sur BFM, on a déjà prévu.
Et je comprends que les gens se disent, je comprends que les gens puissent se dire, ah, mais on vient chez nous expliquer comment on doit consommer, etc. Non, c'est pas notre discours. C'est de dire, en fait, on est chacun d'entre nous peut être acteur dans la période.
Est-ce qu'il y aura des distinctions géographiques? C'est-à-dire que vous avez dit qu'il y aura des zones, par exemple, là où il y a les pompiers, l'hôpital, qui ne seront pas touchées. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que les zones où il fait le plus froid seront moins délestées que celles où il y a un peu moins besoin de mettre le chauffage et où c'est moins pénalisant d'avoir 2 heures de moins d'électricité?
En fait, ça correspond un peu à une carte léopard. C'est-à-dire, c'est pas une carte
avec des tâches,
départements. Voilà. C'est des petits bouts de certains départements qui sont concernés. C'est quelque chose qui est rotatif. Donc,
c'est de la dentelle, quoi.
Ouais, c'est de la dentelle.
Et les écoles?
Vous n'avez pas un département qui va se retrouver dans le noir, comme ça n'existe pas.
Et les écoles?
Quoi, les écoles?
Les écoles, elles seront maintenues ouvertes, pas ouvertes?
Les écoles, c'est en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale, mais encore une fois, on n'est pas dans un film catastrophe en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc on regarde pour que dans chaque situation, on puisse avoir des moyens d'agir qui soient adaptés et proportionnés.
Est-ce que vous savez,
sachant qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est capable de dire aux Français, c'est qu'on sait déjà que dans le mois de décembre, dans lequel on n'est pas encore entré, ça n'arrivera pas.
Ça, j'ai bien compris. Bon, on parle du mois de janvier. Mais j'imagine que si vous en êtes arrivé à ce degré de détail, de lieu, d'une carte géographique qui ressemble, comme vous dites, à une tâche de léopard, est-ce que les feux de signalisation, par exemple, sont indépendants du réseau? Est-ce que vous pourrez les maintenir?
Ça dépend des endroits. Il y a des choses. Par exemple, le réseau de métro de Paris, il a son propre réseau d'électricité, donc il est pas concerné.
Les terminaux de paiement, par exemple, est-ce qu'on pourra continuer à payer par carte bleue?
Il n'est pas impossible que peut-être que pendant 2 heures, on puisse pas retirer du cash. Enfin, encore une fois, je comprends parfaitement toutes les questions qui vont se poser. On peut parler des métros, etc. On n'est pas dans ce référentiel-là de mode de pensée aujourd'hui.
Ça veut dire que
c'est pas la question.
Par exemple, si on est en EcoWatt Orange, pour reprendre l'appellation, on se dit, demain, je prends pas le train parce que je risque de pas pouvoir rentrer.
Non, EcoWatt Orange, c'est pas la question. EcoWatt Orange, ça veut dire que ça tire un peu.
Ouais, mais ça veut dire que ça peut potentiellement basculer dans le rouge, quoi.
Mais ça veut pas dire que ça peut basculer dans le rouge. Ça veut dire, c'est bien si on fait un peu plus gaffe demain à notre consommation électrique. Quand on peut.
Et
c'est même pas ne pas consommer du tout, c'est les horaires. On n'est pas en train de dire aux gens, vous allez manger froid. C'est plutôt, si vous ne mettez pas le four en pyrolyse à 19h, c'est mieux. Voilà.
Le pyrolyse, c'est au milieu de la nuit. Donc, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui se retrouve finalement à nouveau sur la question de l'électricité, un peu comme quand vous étiez ministre de la Santé sur le Covid. On a l'impression que vous êtes obligé de rentrer dans la vie quotidienne des Français, de leur donner des indications sur désormais la manière de vivre, les horaires. Est-ce que vous sentez aussi chez les Français à la fois de l'inquiétude et une forme peut-être de lassitude sur ce qu'est devenu notre vie?
Bien sûr, il y a de la lassitude. Faut pas la nier. Parce que il y a eu la crise Covid qui a été très dure, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Il y a une vague qui est en train de monter avec des gens qui vont à l'hôpital tous les jours.
J'y viens.
Il y a la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine. Il y a la crise de l'énergie, la crise de l'inflation. C'est dur pour les Français. Et s'ils, je pense, nous reconnaissent la capacité à faire face à toutes les crises qui se présentent, c'est pas la période la plus drôle de notre histoire collective, même s'il y a des choses qui vont bien. On a du boulot dans notre pays, le chômage baisse, la dette est maîtrisée, on prend des décisions pour protéger le pouvoir d'achat des plus fragiles, les minima sociaux sont indexés sur l'inflation, le SMIC augmente plus que l'inflation. Donc il y a des raisons aussi d'espérer. La France reste le pays le plus attractif d'Europe, la voix de la France porte beaucoup à l'international, donc on a des choses qui doivent nous rendre fiers. Mais dans le quotidien des gens, c'est pas une période très gaie et très rose. C'est une évidence. Et le nier, ce serait se voiler la face. Mais ce que nous disons aux Français, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait face à des crises, on a été parmi les peuples les plus solidaires et les plus costauds du monde. Et ça, il n'y a pas de raison que ça change.
Donc, sur la question du retour, en effet, du Covid associé à la grippe, à la bronchiolite, qui sont donc les 3 épidémies qui sévissent en ce moment même en France, là encore, vous pensez que la solidarité, que notamment le fait de reposer sur la responsabilité individuelle des Français, le masque, vous ne le rendrez pas obligatoire?
Pour l'instant, il ne l'est pas. Il n'y a pas de recommandation scientifique en ce sens. Si ça devait bouger, évidemment, on le dira. Mais c'est pareil, si vous voulez. Regardez, il y a 20% des gens fragiles qui sont à jour de leur rappel vaccinal. C'est pas assez. Ça n'est pas assez. On a un variant qui circule beaucoup. On a des jours avec des dizaines de milliers de contaminations. On a une hausse de plus de 20% de l'activité hospitalière en réa liée au Covid. Il fragilise notre hôpital et notre système de santé. Il y a la grippe qui commence. Elle est précoce. On ne sait pas, mais il n'est pas impossible qu'elle soit forte. On a 15% de réduction de la vaccination des Français par rapport à l'année dernière. Oui, contre la grippe, c'est pas normal.
Savez-vous si vous avez la faire vacciner ou pas? Moi, je sais plus.
Moi, je me suis fait vacciner.
On ne sait plus à quel.
Je me suis fait vacciner hier contre la grippe.
Mais la grippe sur les moins de 60 ans, sur le Covid, les vaccins, vous ne dites plus, c'est-à-dire que vous dites à la fois c'est très grave, il faut solennellement remettre le masque, il y a une situation très dure, on ne sait même pas dans comment sera la grippe. Et dans le même temps, oui, il faut se faire vacciner, mais pas les moins de 60 ans. Il y a un an, on nous disait que les moins de 12 ans allaient peut-être même devoir se faire vacciner. Et aujourd'hui, non, finalement.
Parce qu'on parle du rappel et du booster de vaccin. C'est-à-dire que les gens qui sont jeunes et qui ont été exposés ou qui ont été vaccinés gardent une immunité plus solide que les gens plus âgés. Bon, mais si vous voulez que je le rappelle bien volontiers. Merci de me donner l'occasion de le faire. Je m'adresse aux Français. Si vous avez 60 ans et plus, si vous êtes porteur de maladie ou si vous êtes en contact au quotidien avec des gens fragiles ou âgés, faites-vous vacciner contre la Covid. Si vous n'êtes pas à jour de votre rappel, ça vous prend 5 minutes et ça vous protégera, ça limitera les risques de complications.
Pourquoi 60 ans et plus? Pourquoi vous avez mis le curseur à 60?
C'est le critère scientifique. C'est au-delà de 60 ans, le système immunitaire est moins solide qu'avant 60 ans. Bah, lui aussi, il a des signes d'usure.
Le fait d'avoir fait vacciner, y compris les enfants,
Non, parce que vous avez une première exposition à travers la vaccination quand vous êtes jeune qui donne une immunité plus forte, une mémoire immunitaire plus solide.
En fait, l'immunité, c'est un peu confus.
L'immunité, moi, j'adore expliquer ça, mais l'immunité, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire. Mon corps garde en mémoire la capacité de produire une arme pour empêcher le virus.
Et on a plus de mémoire quand on a 12 ans.
Quand on a 12 ans, quand on en a 60, sans faire injure aux gens qui ont plus de 60 ans dans notre pays. Et donc, c'est pour ça qu'on cible la vaccination en particulier sur les personnes les plus fragiles. Mais je vous le dis, même chez les plus fragiles, on est à 20% de vaccination à jour. C'est pas assez. Donc, il faut y aller.
Les médecins sont en grève aujourd'hui, les médecins généralistes, plus de la moitié des cabinets sont fermés. Vous entendez cette souffrance, ils disent en fait on est les moins bien payés d'Europe, ils veulent une consultation revalorisée, voire même jusqu'à 50 euros, est-ce que vous leur donnerez ?
Il y a une négociation conventionnelle, c'est une négociation entre les partenaires sociaux et l'assurance maladie qui est en cours. Il n'est pas rare que pendant ce type de négociation, il y ait un petit coup de rappel ou un petit coup de pression à travers un mouvement social.
C'est hyper rare, hein, pardon, mais les médecins ils n'ont pas été en grève depuis 15 ans.
On verra comment la grève est suivie. Il y a eu d'autres grèves depuis 15 ans. Il y a eu d'autres grèves depuis 15 ans.
Non, il y a eu parfois des grèves administratives, c'est-à-dire ils refusaient de prendre la carte vitale et ils envoyaient des papiers. Mais enfin, refuser des patients, c'est-à-dire fermer le cabinet, c'est pas arrivé depuis des années.
Pour tout le monde de la santé, que vous soyez en ville ou à l'hôpital, il y a un problème identique, c'est qu'il n'y a pas assez de gens. On n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de toubibs dans notre pays. Et on le sait, c'est pas de votre faute, c'est pas de la vôtre. C'était qu'on a empêché pendant 50 ans.
C'est limite un peu plus de ma faute que de la vôtre, parce que vous, au moins, vous êtes médecin. Donc, vous avez tenté le coup.
En termes de décision de politique publique, pendant 50 ans, on a empêché des jeunes français d'apprendre la médecine en France. Bon. C'était le numerus clausus. On l'a supprimé en 2018. Si vous faites le calcul avec moi, donc on l'a supprimé, le président de la République l'a supprimé dès qu'il est devenu président.
Ça n'aura d'impact que dans quelques années, oui. Puisqu'il y a toutes les années de formation.
Donc on manque de médecins en ville et à l'hôpital, donc c'est dur pour les médecins qui sont en exercice, qui sont obligés de travailler plus longtemps, plus dans la journée, plus rapidement, et donc qui sont soumis à des pressions. Ce qu'on rencontre à l'hôpital et en ville, c'est ça.
Est-ce que vous estimez légitime, Olivier Véran, la revalorisation qu'il demande ?
Il y a souvent des revalorisations à travers les négociations conventionnelles. Je ne suis plus ministre en charge de la santé, permettez-moi de ne pas m'exprimer sur le fond de ce dossier.
Ce n'est pas exclu pour vous que la consultation à 25, elle passe à 30, quoi.
Il y a d'autres modalités de paiement des médecins généralistes que le paiement forfaitaire de la consultation. Il y a tout ce qu'on appelle les à-côtés, c'est-à-dire quand vous avez des consultations longues qui sont mieux rémunérées quand vous êtes face à un patient qui est âgé, vous avez des consultations de suivi, vous avez des indicateurs de santé publique qui vous permettent d'être mieux payé quand vous suivez les indicateurs de santé publique. Bref, il y a plein de modalités. Un médecin ne touche pas 25 euros TTC pour une consultation. Il faut y ajouter en moyenne des parts forfaitaires qui sont liées à différentes activités.
Mais précisément, ce matin, je recevais l'un des responsables des syndicats de médecins qui disait, mais justement, en fait, nous, on demande de faire un paquet global, revalorisez la consultation arrêtez tous ces... Parce que pour avoir chacun de ces petits à côté dont vous parlez, c'est des papiers à remplir et c'est des patients en moins à voir.
C'est en fait de l'intérêt de santé publique pour les malades aussi. Enfin, je veux dire, quand on dit à un médecin que lorsqu'il évite de prescrire 2 ou 3 anxiolytiques à une personne âgée, il sera revalorisé pour sa consultation. En fait, c'est plutôt bien pour la personne âgée. Et on a enregistré plutôt une baisse des prescriptions de psychotropes, de somnifères aux personnes âgées. Donc c'est bien pour leur santé. Donc il y a des choses qui vont dans le sens de la santé publique. Et ensuite, il y a des moments où les médecins demandent plus de forfaits, des moments où ils demandent plus de valeur de l'acte de consultation, ça varie, etc. Donc, je vous dis, laissons l'assurance maladie travailler avec les syndicats. Et je comprends parfaitement le stress, voire la détresse dans laquelle se trouve un certain nombre de nos médecins, parce qu'ils sont crevés, parce qu'ils sont tout seuls, en fait, et c'est ça le problème. Et donc, il faut les aider dans la période, les soutenir, de la même manière qu'on le fait avec l'hôpital. Et on identifie Et il y a notamment l'objet du Conseil national de la refondation sur la santé, avec des centaines de territoires qui se mobilisent pour identifier aussi localement des solutions pour pallier au manque
avec
de médecins.
Avec notamment les maisons de santé.
Oui, et puis on donne un peu plus de responsabilité à des non-médicaux. Enfin, je veux dire, c'est la France est le dernier pays dans lequel une infirmière n'a pas le droit de prescrire du paracétamol à un malade alors qu'elle peut le prescrire à son gamin quand elle rentre à la maison. Mais il le faut. Enfin, moi j'avais commencé à le faire. Ça va dans le sens
mais
de l'histoire.
J'ai l'impression que ça met un temps, ces histoires.
Ouais, mais
ça, vous en avez parlé il y a quelques années. C'est pas si compliqué quand même, si.
Bah, il y a des décisions qu'on peut prendre qui parfois vont très vite dans certains contextes. Et François Braun en prend beaucoup. Et là, on est dans cette phase de consultation dans les territoires. Et on dit aux gens localement de quoi vous avez besoin. Nous, en fait, on est là pour vous faciliter la vie et vous faciliter la tâche.
65 ans, c'est bien ça l'horizon pour la réforme des retraites.
C'est l'âge avec lequel on rentre dans la négociation. Mais attention, Apolline de Malherbe, parce que quand on dit 65 ans, on crée parfois de la confusion. Parce qu'on veut être très simple et très direct. Moi, j'ai vu la dernière fois des salariés qui m'ont dit, franchement, 65 ans, quand on a commencé à bosser à 18 ans, ça fait quand même une très longue carrière. Non, mais attendez, quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans, il ne s'arrêtera pas à 65 ans, hein, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Il y a ce qu'on appelle les carrières longues. Mais ça, c'est des mots qui deviennent vite compliqués et on perd un peu les gens. Il faut retenir que quelqu'un qui a commencé à travailler tôt, il pourra continuer de partir tôt, comme il partait tôt hier, par exemple. Deuxième point important, 65 ans, c'est pas demain. Moi, je voyais quelqu'un la dernière fois qui avait 61 ans et demi, qui me dit, moi, je vais partir dans 6 mois, ça veut dire qu'il faut que je parte dans 3 ans et demi.
Non, ça ne concerne pas ceux déjà aujourd'hui ont 60 ans.
Non, puis ce sera progressif. C'est-à-dire, on parle de 3 mois ou 4 mois.
Et la pénibilité,
4 mois de plus
vous allez élargir
par an,
les critères.
Et donc, c'est quelque chose de très progressif. Et ensuite, la pénibilité, ça fait partie de la concertation que mène Olivier Dussopt, qui est le ministre en charge de la réforme, ministre du Travail, pour identifier des moyens simples de ne pas passer à côté de quelqu'un qui a été brisé par sa carrière parce qu'il avait un boulot qui était difficile physiquement et qui mérite et qui peut et qui doit en réalité partir plus tôt.
Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, merci d'avoir répondu à mes questions, donné beaucoup de détails ce matin. Vous espérez ne pas avoir recours à des coupures de courant, mais vous ne pouvez exclure d'éventuelles coupures de courant en janvier. Il est 8h53.